Pardon, monsieur. Vous ne seriez pas monsieur Alexis ?
Vous me connaissez ?
Je vous ai vu à la télévision.
CO2, mon amour.
Vous vous intéressez à la biologie ?
Oui, mais je n'approuve pas vos théories. Demain, vous nous enverrez dans la Lune. Voulez-vous me dire ce que nous y ferons ? Dans la Lune.
Avec Denis Chessou.
Vous croyez qu'on y sera plus heureux qu'à l'ombre de nos oliviers ? La dictature des savants, ça sera du joli. Mais il paraît que cela plaît aux hommes d'être empoisonnés. Plus ça pue, et plus ils sont contents.
Sur France Inter.
Allez, un petit coup de déjeuner sur l'herbe pour vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette page de nature. CO2 mon amour sur France Inter. Avec aujourd'hui Florian Dorimini à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et avant de retrouver Boris Cyrulnik chez lui face à la mer, je vais vous parler de l'eau. Parce que l'eau, le sait, elle est là dans notre corps, dans les plantes, les bêtes, sous terre, dans le ciel, dans les rivières. Elle est la vie dans nos vies. L'eau, c'est elle le vrai marqueur du réchauffement. C'est elle la clé de demain. Alors faut la penser, la comprendre, la câliner, la savoir capricieuse, réactive, sèche ou torrentielle. Et dans l'Ain, là c'était il y a deux jours, donc la communauté de communes sud du Bugey, donc 43 petites communes, et l'association Eau Bien Commun, eh bien se mettent en ordre de bataille, car même si le réchauffement climatique sévit moins violemment que dans de nombreux coins de France, eh ben il n'y a pas de doute, l'animal y montre le bout de sa queue. Le Grand Colombier, qui est un lieu de passage pour les oiseaux et pas que pour les cyclistes, a beau avoir les épaules larges, on ne sait pas quelle est sa ressource. On sait quelles quantités sont captées, mais on ne connaît pas bien ce qu'il pourra donner demain. La possibilité de la bête qui domine le Rhône à ouvrir le robinet des sources et le joli Bugey à fournir de l'eau aux petits et aux grands Gaunes. Mais dans les Deux-Sèvres, alors là, ça chauffe au sol et dans les esprits, toujours autour de l'eau. Alors bien sûr, on veut aider l'agriculture, oui, mais on ne veut pas de ces bassines immenses, ces monstres caterpillarisés sur 8 hectares chacun, lancés illégalement au départ, au profit de l'agro-industrie qui détruit plus les milieux qu'elle nourrit la planète. Alors oui, illégal, mais devant le fait accompli, dérogation du préfet, c'est comme ça que ça se passe en France. Alors ça se castagne face à un modèle agricole qui ignore l'urgence écologique à long terme. L'eau est un bien commun, mais vous rigolez, cycle de l'eau, qualité de l'eau, allons, faut être sérieux. Bah oui, c'est financé par des fonds publics, nos belles bassines, même si t'es pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous venez nous embêter avec vos marécages fiévreux que les pères de nos pères ont mis tant d'années à foutre en l'air? Vos tourbières malsaines, vos fossés pleins de roseaux, de tritons visqueux et de moustiques tigres, vos haies à bouffer le soleil, vos bosquets d'épineux grouillants de serpents, vos forêts tordues aux fûts mal alignés, vos friches pleines d'oiseaux bouffeurs de grains que c'en est une honte. On va vous bolsonariser tout ça à grands coups de bulldozer et y creuser de beaux cratères, des belles bassines avec des bâches en plastique et des pentes au cordeau pour y glisser des pompes et des tuyaux. Et quand l'été venu sera bien chaud, qui sait qui trouvera de l'eau ? Eh ben le syndicat du maïs à Jojo. Eh ouais, faut faire tourner la machine, à faire crever le monde agricole et la biodiversité. De la même manière, surtout ne rien changer puisque c'est la bonne. Qui que c'est-il qui aura aussi d'ailleurs de la belle neige de culture pour glisser sur les pentes ? Eh ben le syndicat du domaine d'un blanc pur. Tous ceux qui n'envisagent qu'hectares, qui n'envisagent pas d'hectares de céréales et de domaines skiables à perte de vue, alors avis aux rêveurs qui auraient d'autres projets, vaut mieux rester couché bien sagement et ne pas entraver la marche triomphante du progrès. Ce qui est dans le désert, comme à Dubaï, ou oléaginé la moitié de l'Amazonie, sont déjà des choses possibles. L'ambition humaine n'a jamais de limite. Bah si, celle de notre petite planète qui s'acharne à rester vivable. Elle le sera, mais avec qui ? Et les 10 rêveurs de l'association Bassines Non Merci, les no-bassaranes de Charente et de Sèvres, face à ce modèle souhaité par le ministère de l'Agriculture et le syndicat majoritaire qui co-dirige le ministère, sont des citoyens qui n'ont aucunement envie de dormir. Alors ils continuent à marcher et eux, ils cultivent le poil à gratter. On va quitter donc la démesure, la fuite en avant à court terme et on va apprécier la parole et le recul de cet homme, un sage qui nous fait beaucoup de bien. Donc Boris Cyrulnik dans quelques instants. C'était chez lui au bord de la mer dans le Var. When I met you, Ah, ça sent la playlist, ça c'est donc Parcels sur France Inter. Allez, donc la voix de Boris Cyrulnik, vous la connaissez, mais là c'est chez lui, dans le Var.
On a le bruit de la mer, on a le bruit des vagues, ça j'adore ça. On a le bruit du vent dans les hauts bancs, alors ça j'adore ça, ça me berce délicieusement. Quand j'étais gamin, je rêvais d'habiter au bord de la Méditerranée, parce que je me disais, quand on habite au bord de l'eau, on ne peut pas être malheureux. Et donc j'ai fait ce qu'il fallait pour... J'ai passé les concours hospitaliers pour arriver dans le Midi. J'étais heureux à Paris, j'étais heureux à Digne, où j'étais très heureux, mais j'étais aussi, je suis très heureux au bord de l'eau. Et puis quand je suis arrivé là et que j'ai découvert ce paysage, je me suis dit, bon ben voilà, et on s'est bien rencontrés, le paysage et moi, on s'est très bien rencontrés.
C'est une voix que vous connaissez, donc une voix familière qui est simple et qui est rassurante. Alors cette émission, on n'est pas du tout dans un truc de promo, parce qu'en plus son dernier ouvrage chez Odile Jacob, Des âmes et des saisons, se vend très très bien, et pour cause, parce que c'est une méditation profonde sur la condition humaine et sur l'avenir de nos sociétés, donc un véritable ouvrage de, on va le dire, de référence, et qui nous rappelle que nous sommes évidemment victimes de nos succès, que nous ne savons plus maîtriser la puissance en gros que nous avons créée. Et puis qu'on n'est pas séparable de notre milieu, comme le fait croire l'individualisme roi, donc un des moteurs de ce joyeux capitalisme débridé. Non, c'est évidemment un petit peu autre chose, et c'est bien pour ça que l'on bloque aujourd'hui, donc ça, la réflexion de Boris Cyrulnik, à différents niveaux, au niveau des neurosciences, de l'éthologie, de la préhistoire et plus encore, et bien c'est toujours au cœur de ses préoccupations. Une autre façon de rencontrer donc cet homme, c'est chez lui, vous avez la Méditerranée. Il faisait beau, oui, il faisait beau. Il y avait un peu de vent, vous allez bien comprendre pourquoi. Et donc nous sommes pas loin, nous avons Toulon qui est pas loin, le mont Faron qui est juste derrière, et cette mer qui s'ouvre à nous.
Boris Cyrulnik, on essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de vent, mais à mon avis c'est un peu compliqué quand même chez vous.
Peut-être là, regardez, il n'y a pas de vent. Parce que là, je laissais pousser volontairement une haie, voilà, pour les insectes, pour les vers de terre, parce que quand on coupe les haies, non seulement il y a du vent, mais en plus, il n'y a pas d'insectes, ils ne peuvent pas se développer. Donc la végétation est abîmée.
Donc vous êtes un créateur de biodiversité, Boris Cyrulnik.
Je m'en doutais un peu, mais je suis content de l'entendre.
Et ben voilà, c'est ça. On va poser un petit peu le décor. Le Cap Sissier est derrière.
C'est ça, c'est la colline que vous voyez là, ouais, et qui est un exemple parfait de résilience.
Oui, parce qu'il a brûlé.
J'étais en bateau quand le Cap a brûlé, pendant plusieurs jours, à cause de cigarettes. Pendant plusieurs jours, tout le Cap a brûlé, le Cap était rouge, le ciel était noir et la mer était grise. Et on n'entendait plus un bruit. C'est assez curieux, hein. Et quand l'incendie est terminé, j'avais une patiente qui me disait « Les arbres sont méchants, parce qu'il ne restait que le tronc et quelques branches calcinées. » Et 3 ans après, on a vu réapparaître les cystes, alors que les pins empêchaient les chênes de se développer. Quand les cystes sont apparus, les fleurs sont réapparues, on a vu réapparaître le petit gibier. Quand le petit gibier est apparu, on a vu apparaître les aigles. La végétation avait transformé 3 ans après. Les animaux n'étaient plus les mêmes, la colline n'était plus les mêmes, la vie avait repris, mais ce n'était pas la même qu'avant. C'est la plus belle définition que je connaisse de la résilience.
Cette nature, elle a soigné ses plaies comme elle a pu. Elle a donné dans sa suite d'évolution d'autres espèces, même si ce ne sont plus forcément les mêmes.
Voilà, c'est le principe de l'évolution. Alors il y a 2 sortes d'évolution. Il y a l'évolution sans transformation. Le climat change, la glaciation, le réchauffement. Donc les plantes s'adaptent et ne se transforment pas. Par exemple, une fleur, c'est un peu trop de sécheresse, la fleur se replie pour moins évaporer, l'eau réapparaît, hop, la fleur se dilate, elle peut à nouveau évaporer. Mais si le stress de la plante dure trop longtemps, la plante s'adapte et se transforme. Et elle devient une épineuse. Et ici, le climat s'est transformé, D'abord, il y avait des végétaux comme dans le nord. Et puis ensuite, quand la sécheresse a duré trop longtemps, sont apparus les agrumes, les citrons, les oranges, la bergamote, qui n'existaient pas avant. Donc on a une autre belle végétation qui est adaptée au nouveau climat.
Alors Maurice Cyruny, vous avez, vous, absolument besoin de cette nature. Qu'est-ce qu'elle vous apprend ?
Plus j'étudie les animaux, plus j'étudie la nature, plus je comprends les êtres humains. Et même la civilisation, elle est adaptée à la nature. Et on voit que, par exemple, la manière de construire les maisons dépend du contexte naturel. Si on fait des toits inclinés, c'est parce qu'il pleut. Dans les pays arabes, on fait des toits plats. Ma maison, je n'ai pas de climatisation. Mais en revanche, c'est une maison d'Italiens, parce que c'est les Italiens qui ont fait le chantier de la Seine au XIXe siècle, et ils ont mis des pierres énormes. Donc l'été, je fais comme les paysans provençaux, je tire les volets, j'ouvre les fenêtres, je ne laisse pas rentrer le soleil, ma maison est fraîche tout l'été, et vous voyez, je fais pousser les plantes devant pour faire une ombre tout le temps, et je n'ai pas besoin de climatisation.
Et nous avons quand même un très bel arbre, là, quand même, de ce midi.
Alors ça, c'est un rosier centenaire.
Voilà.
C'est un rosier banque. Je lui parle tous les jours tellement j'ai peur qu'il disparaisse. C'est un rosier banque qui couvre la moitié de la tonnelle et il fait de l'ombre qui me permet de vivre sans climatisation.
Alors ici, nous sommes à la Seine. On va juste rappeler que la Seine, c'était des zones humides, les sagnes, comme on dit donc en occitan. Donc c'était ça et ça a été construit sur des zones humides.
C'est ça, exactement. C'était les sagnes, c'est-à-dire les marais. Il y avait le paludisme ici. Et maintenant, on a combattu le paludisme, mais on l'a presque un peu trop combattu. Parce qu'en supprimant les anopheles, on a supprimé les moustiques, donc on modifie l'arrivée des oiseaux. Donc les oiseaux ne transportent plus les graines, donc on modifie la végétation. Et là, c'est un raisonnement que Jean-Marie Pelt m'a appris. Un raisonnement systémique, éco-systémique. On croit qu'on se protège simplement du palu, ce qui est notre droit, mais si on s'en protège trop, si on abîme tous les moustiques, les oiseaux ne viennent plus, il n'y a plus de martinets, alors que les martinets transportaient les graines. Donc si on continue comme ça, on n'aura pas le palu, mais on va mourir de faim parce qu'on n'aura plus de végétaux à manger.
Ce qui veut dire qu'en fait, notre système mental sera différent selon les climats, selon la pédologie, donc selon les sols. C'est un peu la théorie d'ailleurs de Montesquieu, des sols et des climats, quoi.
Ah bon, je ne savais pas, vous allez me faire lire Montesquieu. Je vais avoir à la fin de l'émission, je vais avoir un programme de lecture énorme. Donc je ne savais pas, mais c'est vrai, non seulement alors le climat, les animaux modifient notre manière de fabriquer de la civilisation. Parce que si on a pu faire du néolithique, c'est parce que les vaches sont des mammifères paisibles. Dans le nord, où il y avait moins de vaches, mais où il y avait des rennes, ils n'ont pas pu faire de néolithique, parce que les rennes, on peut les domestiquer à condition de les respecter et de les suivre. Donc si on suit les rennes, on fait une civilisation nomade, qui a sa beauté, qui a ses règles. Et à ce moment-là, on fabrique une civilisation différente. Or, ce qui se passe actuellement avec le virus, c'est qu'on fabrique des animaux dans des élevages faramineux. Donc on détourne les végétaux pour nourrir les animaux qu'on veut manger, donc on n'aura plus de végétaux. On mange des animaux inutilement, alors qu'on mange un peu de protides, ben oui, c'est notre condition du vivant, mais qu'on détruise la planète, c'est la condition qui détruit le vivant. Si on a fabriqué le virus avec des élevages faramineux, on l'a transporté avec une technologie merveilleuse, la route de la soie qui transportait les bacilles. Aujourd'hui, les bateaux, les chameaux, aujourd'hui, s'appellent avions. Et c'est les avions qui transportent le virus à travers la planète. Donc c'est notre merveille technique, la capacité à faire des élevages, la capacité à fabriquer des avions qui fabriquent le virus et qui le transportent. Et si on ne prend pas garde, l'an prochain, dans 2 ans, il y aura un nouveau virus.
Mais alors, est-ce que le discours de la catastrophe, autrement dit de le récit de la coupure, est-ce que c'est la seule manière pour que les humains évoluent ? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est en se prenant des murs dans la tête que ça bouge.
Alors, la condition humaine fait que la catastrophe est un mode d'évolution humaine. Catastrophe naturelle, le tsunami de Lisbonne, je crois que c'était 1755 ou quelque chose comme ça, qui provoque une révolution de l'urbanisme. On ne construit plus les maisons comme avant, on fait de grandes avenues larges et ça donne la merveille qu'on appelle Lisbonne. Épidémie de peste qui ne sont pas des catastrophes naturelles, parce que la plupart des épidémies de peste sont fabriquées par les êtres humains. En 1348, Marseille, qui était un grand port, est au point de départ d'un grand nombre d'épidémies de peste. Et ces épidémies de peste ont presque toujours été provoquées par des commerçants qui, en voulant gagner de l'argent en vendant des merveilles techniques qu'on appelle la soie, ont transporté en même temps le bacille de la peste. En deux ans, 1348-1350, un Européen sur deux est mort. Et après cette catastrophe européenne, eh bien, les règles sociales ont complètement été bouleversées. Les paysans qui étaient des serfs avant l'épidémie de peste, on avait besoin d'eux pour ne pas mourir de faim, on s'est mis à les admirer et les paysans sont devenus des maîtres de la terre parce qu'ils savaient nous nourrir, ils savaient cultiver. Et le servage a disparu sans aucun conflit tellement les paysans avaient acquis en deux ans une valeur de survie. Ou catastrophe culturelle, la guerre. Après chaque guerre, il y a une métamorphose de la condition sociale. La guerre de 14-18 a été une métamorphose, même si on a commencé à galvaniser les petits garçons pour en faire des guerriers pour faire la guerre suivante.
Et le rôle des femmes aussi qui a changé.
Et le rôle des femmes a changé. Après chaque guerre, on découvre que les femmes sont capables de travailler dans l'aventure sociale. Et à la fin de la guerre, il faut faire des réformes pour leur laisser la place qu'elles ont gagnée pendant la guerre.
Aujourd'hui, 29 mai 1945, après des années de souffrance et d'oppression, les Français et les Françaises ont voté. Autrefois, durant les journées d'élection, les femmes restaient au foyer, attendant les pères, les maris, les frères, qui seuls avaient à remplir ce devoir civique. Aujourd'hui, les femmes accompagnaient les hommes. Et pour la première fois, conscientes de leurs nouvelles responsabilités, elles ont voté.
Ce que vous nous dites, Boris Cyrulnik, c'est que nous évoluerons au rythme des différentes catastrophes.
Alors il y aura, comme pour les plantes, il y aura deux types d'évolution. Il y aura l'évolution sans transformation, c'est ce que font les politiciens quand ils se disputent régulièrement. Ils font des réformettes, c'est l'adaptation à des petits changements. Mais quand il y a une catastrophe, il y a un grand changement. Et là, c'est plus des réformettes, là, c'est des bouleversements sociaux qui sont nécessaires. Et là, le grand bouleversement social, c'est la découverte qu'on a palpée pendant plus d'un an, presque deux ans, c'est qu'on ne peut pas ne pas respecter la nature. Si on ne la respecte pas, on partira avec elle. On fabriquera du virus. Tous les ans, il y aura un nouveau virus. Tous les ans, il faudra recommencer le confinement à un prix humain exorbitant. C'est pas une bonne affaire de ne pas respecter la nature. La bonne affaire, c'est de découvrir ses règles et de les respecter.
Je répète doucement, si on ne respecte pas la nature, nous partirons avec elle. Mais ça touche quel nombre de cortex, je ne sais pas exactement dans ce pays. On poursuit évidemment ces mots, ces phrases, ce voyage chez lui, au bord de la mer, avec donc Boris Cyrulnik. Ah bah ouais, jolie chanson, tenez.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide. Thank you.
La terre, depuis un bon siècle, continuait à se gratter. Bon, c'est rien, j'ai attrapé l'humanité. Bon, ça va peut-être me passer. Pardon, Souchon, Thierry Dupin, merci aussi pour cette chanson. On va poursuivre le voyage, mais...
C'est à toi, ça hein? T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout.
C'est au de mon amour.
Bon, alors écoutez-moi bien. On va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok?
Denis Chessou.
Bon, contrat?
Contrat?
J'ai pas entendu.
Contrat?
Sur France Inter.
Tu refais ça, je te pète la gueule.
Voilà, moi j'aime beaucoup lorsque je vois, là j'ai vu encore une classe il y a deux jours dans ce budget où avec les instits qui ramassaient donc les déchets, ils faisaient la pédagogie autour de ça, et bravo, voilà, ça change pas le cours de l'humanité, mais n'empêche on le fait. Vous imaginez un petit pointu en bois, comme on dit, autrement dit un bateau qui s'appelle le Borgnefesse, à numéro 6, légende Malouine, c'est le bateau de Boris Cyrulnik, mais on va quand même rester sur terre avec lui, à la Seine-sur-Mer, tranquillement, dans le Var.
Alors ça c'est un petit mandarinier. Là il y a un petit pêcher qui donne pas, mais le mandarinier donne bien.
Ouais.
Et sur ma terrasse, alors là j'ai des citrons énormes et juteux.
Ah oui, c'est ce qu'on
j'ai
voit,
des kumquats merveilleux parce qu'ils sont à l'abri du vent et que les plantes n'aiment pas trop. Elles sont un peu rabougries par le vent. Le vent pour elles c'est un équivalent de sécheresse, même s'il y a beaucoup d'eau, même s'il y a beaucoup de soleil. Le vent les sèche un peu, donc elles poussent moins bien, mais dès qu'on les met à l'abri du vent, elles poussent beaucoup mieux.
Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous aimez bien comme plante ici? Bon, là, d'accord, on a des pélargoniums, donc c'est un classique.
Ah ben là, j'ai un rosier centenaire. Là-bas,
ouais,
j'ai
c'est celui-là. Ouais.
Une glycine que je cherche à faire partir sur ma terrasse pour servir d'ombre à mon bureau.
Et elle ne vous obéit pas encore?
Si, elle commence.
Ah, quand même.
Ah, quand même. Mais il a fallu que je la séduise pendant plusieurs années.
Ah, dites, la glycine, ça rigole pas. Hein. Vous appelez Cyrulnik, elle s'en fiche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, donc. Alors vraiment, vous recyclez tout. Je vois votre baignoire, une ancienne baignoire, et là, maintenant, vous avez mis des plantes à l'intérieur.
C'est important. On a mis des petits oies de poissons dedans pour empêcher les larves de moustiques, un petit peu. Mais c'est les vieilles plantes qui sont intéressantes, parce qu'elles ont une histoire.
Et là,
il y a même des cailloux, j'ai même fait deux rocailles, une rocaille provençale ici, et celle, j'ai fait une rocaille japonaise, avec des pierres plates, parce que les Japonais disent qu'il faut qu'une pierre ait une histoire, il faut qu'elle soit plate, il faut qu'elle soit creuse, et il faut qu'elle raconte une histoire, voilà. Et je me suis fait mon petit jardin japonais.
Là, nous avons alors des coquelicots, en veux-tu, en voilà, parce qu'il n'y a pas de pesticides dans ce jardin, ça c'est clair et net. Et puis, nous avons ce lieu que vous avez souhaité laisser en liberté.
Voilà, j'ai fait volontairement un champ de mauvaises herbes avec des coquelicots.
Qui ne sont pas mauvaises, vous le savez.
Qui sont bonnes.
Qui sont bonnes.
Mais je les aime, j'aime ce qu'on appelle les mauvaises herbes.
Oui.
Parce qu'elles sont indépendantes, elles font des taches de couleurs très belles. Et puis, elles sont apparemment désordonnées. Mais regardez, il y a tout un petit mouchetis de jaune, des coquelicots rouges, il y a des fleurs bleues qui sont en train d'apparaître là. Je garde même les chardons. Alors bien sûr, il y a des thym, des lavandes, bien sûr, mais je garde même les chardons, parce que les chardons, ça fait des piquants magnifiques.
Puisque là, nous avons quand même des oiseaux, parlons encore de ces animaux, parce que vous avez une phrase que je trouve super, vous dites « Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans les zoos et de les avoir humiliés par nos rires. »
Mais oui, l'éthologie animale, que j'ai côtoyée pendant dans les années 70, nous apprend que les animaux comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'on croyait. Descartes nous a joué un vilain tour en parlant d'animal-machine. Malebranche l'a bien aidé et c'est rentré dans notre culture occidentale. Or, il se trouve que avant la parole, les êtres vivants, animaux ou humains, comprennent beaucoup de choses avant la parole. Et je fais partie d'une génération, quand j'étais étudiant en médecine, où des maîtres que j'admirais nous disaient « tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre ». Beaucoup de mères étaient étonnées, disaient « mais moi j'ai l'impression que mon bébé comprend ».
Donc on a plaqué ça sur les animaux aussi.
Et alors les animaux ne parlant pas, on pensait que c'était uniquement des machines, comme nous l'avait fait croire Descartes. Et on découvre, grâce aux éthologues, que les animaux comprennent beaucoup de choses avant la parole.
Comment se fait-il qu'il soit légal de broyer des poussins vivants ?
Des questions comme celle-ci, Charlotte Arnal s'en pose de nombreuses en tant que citoyenne. Alors elle a mis sa vie professionnelle en parenthèse pendant un an pour marcher. Une traversée de la France pour rencontrer celles et ceux qui peuvent changer le regard que nous posons sur les animaux.
Émilie s'est lancée dans une croisade étonnante. Cette Anglaise n'est pas végétarienne, mais elle est sensible à la souffrance animale. Avec son mari Stéphane, ils rachètent des poules mal en point, qu'ils requinquent dans leur ferme pendant un ou deux mois, pour les revendre à des particuliers.
Alors, ce qui a évolué là depuis ces dernières années, c'était le droit des animaux. L'antispécisme aussi donc est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Alors moi je pense que tous les êtres vivants doivent être respectés. Si on ne respecte pas les plantes, eh bien on va abîmer notre vie quotidienne. Si on ne respecte pas les animaux, on va créer des déséquilibres dans le système, on partira avec les animaux. Donc je pense qu'on doit respecter tout ce qui est vivant. Et pour le respecter, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne un animal. J'ai un chien lacanien, il comprend tout. Et il est très intelligent.
Un chien lacanien, il est où là,
il est parti se balader avec ma fille. Mais,
ouais.
Mais sinon, chaque fois que je lui lis Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue.
Boris Cyrulnik, dans ce monde mais merveilleusement fracassé sur plein de plans, parce que bon, on l'a vu, pas que le virus, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on change? Parce que là, ça urge un petit peu, quoi. On est soit dans le déni, soit on est que dans le plaisir, soit dans l'immédiateté.
Si on remet en place l'ancienne société, sprint, hyperconsommation, hypercirculation, tous les ans, il y aura un nouveau virus. Il faudra tout recommencer tous les ans. Donc la civilisation va cesser. On va être ruiné. Alors je pense que ce qu'il faut, c'est ralentir la consommation, ralentir la circulation, ralentir l'école. On va vivre 100 ans. Si on perd un an ou deux, qu'est-ce que ça peut faire? Donc ralentir et éprouver le plaisir de rencontrer. Rencontrer l'autre différent. Couleurs différentes, religions différentes, civilisations différentes. Le plaisir, si on va lentement, explique-moi ta culture. Qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que c'est amusant? Je ne suis pas toujours d'accord, on va se disputer. On va se disputer, mais ça fait partie de la relation humaine. Donc, ralentir et explorer.
Albert Jacquard, demain dépend de nous.
Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens.
Albert Jacquard avait une phrase très très jolie, il disait « tuer les liens que tu tisses ».
Alors dans ma réflexion psycho-écologique, l'expression n'est pas de moi, elle est de Brofenbrenner qui avait proposé ça, mais ça n'avait pas eu de succès parce que l'écologie, il y a 50 ans, on disait c'est un truc de trafiquant, c'est un truc...
C'est au fond à gauche l'écologie.
C'est un truc d'illuminé, ça n'a pas n'importe... Et maintenant on se rend compte que c'est le fondement de notre existence, à tous, les animaux, les plantes et nous. Alors dans psycho-écologie, je dis que notre corps est un carrefour de pression climatique, sensorielle, et notre âme est un carrefour de récits. Et que on ne sépare plus le corps et l'âme. Les deux fonctionnent ensemble. Et que si on abîme le corps, on abîme l'âme, et si on abîme l'âme, on abîme le corps et la société, et on ne peut plus vivre ensemble. Donc ce raisonnement écosystémique, il commence à être accepté. Il y a encore des gens qui s'y opposent, mais ça fait rien. L'évolution dans les mois qui viennent va imposer une nouvelle réflexion.
Ah, vous savez pas, Boris Cyrulnik, on va se quitter avec une phrase de vous, parce que vous dites « Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est juste un bon moment à passer ». Ben moi, je vais dire que faut pas avoir peur d'une rencontre avec Boris Cyrulnik, parce que c'est aussi un très bon moment à passer. Donc, merci à vous.
Mais c'est parce que vous étiez là qu'on a pu créer et partager ce bon moment. Il y a une phrase, d'ailleurs, qui est une phrase à moi, que je retrouve attribuée à un très grand nombre d'auteurs, dont le pape. Et c'est une phrase que j'ai souvent répétée, je crois vraiment que c'est moi qui l'ai trouvée, cette étrange mathématique qui veut qu'un bonheur partagé est multiplié par deux.
C'est Boris Cyrulnik.
Mais c'est Boris Cyrulnik.
C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Puis je voulais aussi vous remercier quand même, je veux dire, au nom de toutes les âmes qui nous écoutent en ce moment, parce que en fait, vous leur avez permis de, suite sûrement à un traumatisme, de transformer leur vie en une très jolie cicatrice. C'est plus une plaie ouverte, mais c'est devenu une jolie cicatrice, la plus jolie possible.
Oui, mais c'est une volonté. Il faut y travailler, ça ne tombe pas du ciel. C'est possible. On fait des travaux scientifiques, expérimentaux, pour démontrer que c'est possible, mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut y travailler. Nous et le milieu, les copains, le quartier, la culture et même les politiciens.
Merci à vous, Boris Cyrulnik.
Merci, Denis Chessou, d'être venu de si loin.
Et en vélo.
En vélo.
Enfin, on va être précis, hein, ça a quand même été le train, TGV et vélo, et non pas que le vélo. Depuis la région parisienne, il a une très jolie phrase aussi, il disait que Cyrulnik, quiconque a côtoyé la mort est condamné à la poésie. Voilà, on va rester sur ce mot-là, donc des âmes et des saisons, je sais pas s'il est en poche, peut-être pas encore, enfin bon bref, des âmes et des saisons, psychoécologie, chez Odile Jacob. La semaine prochaine, ah bah, c'est complètement différent, on va aller dans le département de l'Aisne, et on va rencontrer des militaires, ouais, parce que vous avez beaucoup de biodiversité, vous avez beaucoup de sites Natura 2000, qui sont donc dans des camps militaires. Donc je vais vous emmener à Sissonne. Ouais, alors là aussi, ça va être bien. Et vous allez voir que c'est géré par le Conservatoire des Espaces Naturels. Donc on va rencontrer plein d'acteurs différents. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Il y a le Twitter, Denis Chessou, le Instagram aussi, et les différents podcasts, et ça, vous en avez donc l'habitude. Merci à Thierry Dupin, à Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout à fait tranquillement un très bon dimanche. Ça risque d'être un peu humide, peut-être un peu frais, mais en tout cas, ça fait partie des joyeuses saisons.